Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue à cette conférence qui se déroule dans le cadre de la Semaine européenne du numérique responsable, organisée par l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, nous sommes accueillis par le Chaboc pour ce temps d'échange entre MS Connect et Bachelet. Donc, nous aborderons les questions autour de la RSE et quelles actions concrètes pour mettre en place pour la responsabilité numérique des entreprises. Donc, je vais rapidement présenter qui on est et ce qu'on fait. Donc, je suis Mouni Sadi, donc chargé de mission de la Connect.tech dans le Grand Est. Je représente MS Connect. Donc, MS Connect, c'est une association qui, depuis 10 ans, lutte contre l'exclusion numérique. Et donc, voilà, notre objectif, c'est faire du numérique une chance pour tous, y compris donc, les personnes qu'on accompagne qui sont des personnes en situation de précarité numérique et sociale, donc, qui vont cumuler cette double peine. Donc, pour accompagner ces personnes vers l'inclusion numérique, on va avoir différents moyens. Donc, on va les accueillir dans les différents espaces de solidarité numérique partout en France. Donc, à Strasbourg, se situe à côté de la gare, rue Caganic. Il y a également le Grand Est, un espace de solidarité numérique à Reims. Donc, on va accompagner ces personnes, leur proposer de l'équipement à tarif solidaire. Donc, par exemple, un smartphone à 40 euros. On va proposer un ordinateur, un PC portable à moyenne à 110 euros. Donc, vraiment, ça va être à peu près la moitié du prix du reconditionnement. On va ensuite, une fois qu'on a proposé ces équipements, proposer de la connexion. Donc, des cartes SIM pour 1 € symbolique, 1 € téléphone, des recherches d'Internet aussi, pouvoir se connecter. Et enfin, on va accompagner ces personnes vers l'autonomisation de leur pratique en les accompagnant sur une cadre de petites permanences connectées qui peuvent se dérouler pendant 1 ou 2 pour un petit problème ou des parcours longs. On va vraiment les former sur les bases du numérique, donc le PC, la souris, le clavier, jusqu'à envoyer un document avec une pièce jointe, un petit tableau Excel. Donc, vraiment dans le but d'optimiser les personnes. Enfin, on forme aussi des travailleurs sociaux, les aidants, sur la question de l'inclusion numérique. Nicolas, je laisse la parole pour présenter.
Oui, bonjour. Nicolas Perrault, je suis le responsable qualité RSE de la société Bechtle. Donc, Bechtle, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe d'origine allemande, donc Bechtle AG, qui compte plus de 14 000 collaborateurs en Europe. Donc, on est présent dans 14 pays. Et si tu me permets, je reprends la télécommande. Merci, Lounis. Donc, nous, notre mission, c'est quoi? C'est proposer des solutions informatiques aux entreprises et aux administrations. Donc, nous nous adressons à une clientèle de professionnels. Et en France, nous sommes présents depuis 2000. Nous avons plus de 150 collaborateurs en France, donc sur 3 sites, sur Paris, sur Ilkirch-Grafenstaden. Donc, ça, c'est un peu compliqué à prononcer quand on n'est pas alsacien. Nous avons donc 4 500 clients actifs, comme j'ai dit, donc des clients professionnels. Et nous travaillons avec des partenaires de tout le monde de l'IT. Nous sommes en quelque sorte des grossistes de l'IT.
Ben, merci Nicolas d'être présent avec nous aujourd'hui, d'avoir bien voulu se joindre à cet événement, vous présenter et parler de votre stratégie RSE. Donc, comment ça va se dérouler? Tout d'abord, on va peut-être faire un petit débrief sur pourquoi le numérique ça devient un enjeu. On peut défricher tout ce qui peut se cacher dans cette grande jungle de faute de câbles et d'appareils. Ensuite, ben, on va se poser la question, la responsabilité numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, je relancerai la parole, mais de toute façon, si tu as des choses à compléter, n'hésite pas. Hein. Donc, on va parler de ce qu'on fait, Bachelet, MS Connect, donc la présentation d'une stratégie RSE à l'année. Et enfin, ben, on ouvrira les questions au public. Donc, je vais commencer. Donc, pourquoi le numérique devient un enjeu? Aujourd'hui, ce qui se cache derrière le numérique, c'est plutôt invisibilisé par ces tout petits appareils où on cherche justement à compacter, à réduire, à faire des appareils de plus en plus petits, de plus en plus fins, mais on ne se rend pas compte que les impacts ne sont pas passants. Là, je me suis un peu basé sur des chiffres de chiffres project et de la donne. Donc, en France, l'impact du numérique qui augmente d'année en année, ça représente 2,5% de l'empreinte carbone des Français. Ça paraît peu, mais sincèrement, c'est aussi dû au mix énergétique français parce que voilà, on a un pays très nucléarisé, donc notre électricité provient plutôt de sources décarbonées, entre guillemets, avec d'autres conséquences, mais ça peut en moyenne, c'est plutôt 4-5% de l'empreinte carbone d'un pays. Mais voilà, donc, quand on regarde sur la consommation d'électricité, le numérique, c'est 10% de notre consommation électrique. Donc, ça reste un des leviers d'action fort pour agir sur la décarbonation de nos pays. Et donc, c'est le quatrième poste à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, après la voiture, le logement, l'alimentation. Ce qui a dit aussi sur l'impact du numérique, c'est qu'aujourd'hui, on assiste donc à une croissance de la consommation d'énergie, environ 9% par an, croissance de consommation d'énergie sur le numérique. Et alors que les perspectives de l'accord de Paris, parce que nos actions sont quand même encadrées par ces gros accords-là, on doit passer de 10 tonnes à 2 tonnes de CO2 par français, donc là c'est vraiment en France, ça implique de réduire de 41% nos émissions carbone, et donc sur le numérique, on est plutôt en augmentation. Donc ça pose des questions, parce que le numérique ça peut aussi être un super outil au service de l'utilisation de l'économie d'énergie, ce qui fait en fait du numérique à la fois un outil pour réussir une transition écologique et à la fois un défi parce que ça consomme et il faut encadrer pour ça, quoi. Donc on va voir est-ce que la stratégie numérique comment ça se passe, c'est se décider, c'est prendre des orientations technologiques. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un numérique un peu compulsif qui va aller vraiment jusqu'au déconnecté à quelque chose un peu plus piloté, raisonné et puis bien pensé, quoi. Donc, d'ailleurs, cette campagne, aujourd'hui, ce qui concerne l'énergie, c'est l'énergie, l'épuisement des ressources énergétiques, la plus question pour suivre cette croissance numérique, les émissions carbone derrière la fabrication, la distribution de ces appareils. Ce sont aussi des produits qui émettent des radiations à différents niveaux selon la chaîne, selon l'étape, sur la chaîne de vie de l'appareil. Et ça consomme aussi énormément de matière. Donc, je voudrais proposer à ceux qui sont présents ici de participer à un petit quiz pour faire un peu se repartager les grands chiffres de ce que c'est le numérique et son impact. Donc, en votre avis, quel est le plus responsable de ces impacts environnementaux? Est-ce que c'est, selon vous, le réseau, donc tout ce qui va être câble, toute l'infrastructure? Est-ce que c'est plutôt les appareils électroniques, donc vraiment les appareils qu'on démarre ou qu'on éteint, ordinateur, smartphone, ou bien connecté, les fameux. Ou alors, est-ce que c'est ces gros couloirs qui nous permettent de stocker nos photos de chat, qu'on appelle aussi le data center. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? Les trois, ouais, en vrai, ouais. C'est le plus gros responsable, quelqu'un a une idée? C'est? Oui, ok, alors, c'est les appareils, donc c'est le B. Les appareils électriques, c'est entre 64 et 92% des impacts du numérique. Donc, même si on a souvent une mauvaise image en fait, du data center, parce que ça reste un gros frigo qui nous permet de stocker des photos de chat, c'est en fait des appareils qui sont quand même des terminaux qui consomment le plus parce qu'on les renouvelle très souvent et que en fait, ça a un coût énorme. Donc, l'infrastructure, c'est un peu plus à la marge, entre 2 et 14% selon les pays. Deuxième question. Quelle étape de vie, quand même, question les plus néfastes, si vous deviez les ranger chronologiquement. Donc, est-ce que ce serait plutôt l'utilisation, le moment où on va exploiter l'appareil, parce que c'est la fin de vie, donc tout ce qui va être le détroit, quoi, le recyclage, l'enfouissement, l'incinération, est-ce que c'est la fabrication? Ou est-ce que c'est la distribution? Toi, ou quoi, ton nom?
Allez, moi je vais mettre la fin de vie.
La fin de vie.
La fin de vie parce que bah, ça devient des déchets qu'il faudrait pouvoir réutiliser. Donc ça dépend comment on gère la fin de vie.
Ça pourrait être. Est-ce que dans le public, quelqu'un a vous proposé une autre réponse? La fabrication? La fin de vie? Ok. Alors, c'est la fabrication. Donc, effectivement, le gros de l'impact se fait au moment où on fabrique l'appareil. Donc, c'est vraiment les trois quarts de l'impact, donc carbone, matière aussi et consommation d'eau qui se fait à ce moment. Donc, le but derrière tout ça, c'est que l'idée aussi qu'on veut sensibiliser, c'est que quand on construit ces appareils, si le gros de l'impact, c'est la fabrication, bah, c'est qu'il faut c'est de rallonger au maximum pour rentabiliser cet impact. L'utilisation, au final, ça représente un effet conséquent parce que du coup, c'est aussi dans les frigos, c'est 25% de l'impact carbone. C'est là, c'est tout le stockage de données qu'on va générer sur un appareil. La distribution, ben, en fait, c'est marginal parce que mon appareil, c'est tout petit, donc transporter mon bateau, c'est pas tant élevé, mais la fin de vie aujourd'hui, c'est plutôt un outil de valorisation, quoi. On va essayer de valoriser plutôt la matière qu'on a dans l'appareil, donc essayer de réemployer, de revaloriser, puis de recycler, quoi. À votre avis, ça pèse combien un smartphone? Ça pèse une centaine de grammes? Ça pèse 70 kilos ou les deux? 100 grammes, ouais, bah, ça pourrait.
Moi, je dirais, comment la question est posée, c'est les deux.
Bah
Il y a une roche.
ouais, carrément, c'est les deux. Un smartphone, c'est effectivement, c'est ça, 300 grammes dans la poche, selon qu'on est une coque protectrice, le Bachelman qui est hyper solide. Ou alors, ça peut être 670 kilos de matière nécessaire pour construire un smartphone. C'est énorme. Voilà, c'est ce qui rentre dans la poche. C'est ça, en fait, c'est des quantités énormes de matière extraite pour faire ce déterminant nécessaire à la réalisation d'un smartphone. Donc, un smartphone, c'est comme ça le tour du monde. Ça va, ça pourrait donner un avis, mais c'est quand même énorme. Un ordinateur, c'est encore, c'est 2 à 3 kilos. Là, ça représente une tonne de matière. Donc, vraiment, c'est un petit nombre, quoi, ces appareils. Et cette conscience, en fait, c'est ce que je disais dans l'introduction, on visibilise vachement cet impact parce qu'on a tendance à proposer des produits de plus en plus fins, réduits, voilà, avec des AMP épurés. Et donc, on se rend de moins en moins compte de ce qu'il y a derrière la jungle numérique. Je suis donc avec les chiffres qui proviennent d'une étude qu'on a réalisée dans le Grand Est. Avec Musconnect, avec la région, là-bas, nos différents partenaires, sur le réemploi, le potentiel de réemploi d'appareils numériques dans le contexte. Donc, à votre avis, combien d'appareils professionnels, donc on se concentre vraiment sur les appareils professionnels, sont jetés dans un état à peu près fonctionnel chaque année? Toi, t'as une idée, Nicolas? Donc, 555, 130 000 ou 330 000?
Alors, 3 300 000, je dirais que ça fait trop. 5 555, ça me paraît trop précis. Je veux dire 130 000.
Okay. Alors, c'est pas trop bien 300 000 faute de frappe, mais donc chaque année dans le Grand Est, 130 000 ordinateurs fixes et portables sont envoyés en D3E, alors qu'on pourrait les reconditionner pour une seconde vie solidaire. Donc, 130 000 appareils fonctionnels sur 330 000 appareils neurobus. Donc, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, le numérique, c'est aussi un impact social. Et donc, justement, ça me permet d'enchaîner. Dans le Grand Est, à votre avis, combien d'habitants sont privés d'accès à Internet à leur domicile faible de moyens? Sachant qu'on a environ 5,5 millions d'habitants dans le Grand Est. Donc, est-ce que c'est à 61 000, l'équivalent de la population de 3? Est-ce que c'est 361 000, l'équivalent de la population de 8-8, le même? Ou est-ce que c'est 680 000, l'équivalent de la population de l'OMS, de Colmar et de Bouygues?
Je vais faire une petite multiplication, je dirais 680 000.
Ok. Ben, correct. 680 000 personnes dans vos tests sont privées d'accès à Internet de leurs moyens. C'est à peu près 12% de ce qui s'observe dans la moyenne nationale. Donc, en France, on considère qu'il y a 8 millions de personnes qui sont mal équipées ou qui n'ont pas d'équipement, faute de moyens. Donc, c'est énorme, c'est plus d'un Français sur 10. Quand tout le monde parle un peu des chiffres de l'appareil numérique qui pourrait se conditionner ou cette situation d'exclusion numérique, ben, en fait, on dit que dans ce sens, on pourrait maîtriser. Mais en fait, ouais, la réalité sociale aussi du numérique, c'est que bah, vous, on dématérialise énormément. On est sur des volontés. C'est une stratégie, la dématérialisation des services publics. Ben, ça se met en place, mais ça se fait au dépens de toute une partie de la population qui vont être concernées par cette exclusion. Donc, ça va notamment des personnes qui vont être des personnes exilées, des personnes âgées en zone rurale, des étudiants en précarité, des personnes qui sont handicapées. Donc, il y a des personnes qui ont déjà des difficultés sans cette complexité-là à travers le numérique, mais pour qui, en fait, aujourd'hui, on va considérer que le numérique, l'accès à un appareil ou à une connexion, ça peut aller jusqu'à être une maison vitale pour certaines personnes, parce que souvent, ce qu'on réalise, en fait, chez Mousconnet, avec les pays qu'on accompagne, le smartphone, pour certaines personnes, c'est la dernière adresse, c'est le dernier moyen de connecter de trouver quelqu'un. Donc, il y a un vrai enjeu social aussi derrière toute la question mentale et de rendre accessible le numérique. Ici, on va rester avec le numérique de l'entreprise qui nous concerne plus avec Nicolas et Bachelet. Une spécialité au numérique de l'entreprise, c'est aujourd'hui comment ça peut se dérouler. J'aime bien cette phrase de chez Projet, la solution numérique. Que là, actuellement, mise en œuvre participe au dérèglement climatique plus qu'elle n'aide à le prévenir. Donc, effectivement, je trouve que ça a du sens pour moi parce que je ne sais pas ce que tu penses du coup, je lance la balle.
Merci pour la balle. Tu disais très justement que le numérique pouvait aider dans certains cas à résoudre la crise climatique. Ça dépend toujours des usages qu'on fait de nos outils. C'est vrai que dans certains cas, on a pu faire du télétravail qui peut avoir un impact positif parce que les gens n'ont pas à se déplacer. Après, on peut toujours se poser la question de l'utilité de certains objets, le bonnet connecté dont tu parlais avant, les usages de vidéos pas forcément sympas, et encore les chats, c'est les plus sympas. Mais voilà, il faut savoir raison garder avec nos outils. Et donc, c'est là où on doit tous faire attention à l'usage de nos outils, à bien les garder en vie le plus longtemps possible, parce que comme tu l'as vu, et on y reviendra après dans ce qui concerne Béchelet, l'impact principal du numérique, c'est bien la fabrication de nos terminaux. Et on était, je pense, plus d'une dizaine de terminaux par français, en comptant tout. Donc oui, il y a certainement des usages qui sont limités.
Complètement. Ça marche bien avec la deuxième phrase. Le virtuel, c'est matériel. Plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Dématérialisé, c'est multimatérialisé. J'aime bien cette phrase aussi parce que, effectivement, c'est plein de terminaux, plein de solutions connectées. Et donc, ce spécialisé sur ça, c'est super important. C'est vraiment les prémices de cette question sur la responsabilité des entreprises. C'est une question, nous, avec MishConnect, quand on voulait avoir invité, on s'était dit, on n'est pas des spécialistes de cette question. C'est par contre un sujet que je trouve assez intéressant, une mobilisation d'entreprises que je trouve assez pertinente, c'est nous, et donc qui démarre. Aujourd'hui, la définition qui est donnée de la responsabilité numérique des entreprises, c'est la responsabilité numérique des entreprises. C'est un déploiement nouveau et incontournable de la RSE. Elle se fonde sur le même principe que la relation de redevabilité, d'éthique, d'échange avec les parties prenantes de l'entreprise. La responsabilité du numérique, son omniprésence, implique que la création de la valeur qu'elle engendre soit comprise et partagée par tous, au regard des enjeux démocratiques, sociaux et sociétaux. Il s'agit de leviers de confiance à renouveler au regard de constantes évolutions des techniques. Ça englobe un point d'idée, la responsabilité numérique des entreprises. Concrètement, c'est agir sur différents domaines. Ce qu'il y a derrière, c'est notamment les pratiques et le visage des données, donc ce qui a concerné nos attributs. Attention, le fait que chat, nous, on est très fan, donc c'est pas forcément ce qui prend le plus de place. Donc, en tout cas, il y a vraiment un besoin de se concentrer sur la gestion localisée de l'avatar, de si peut-être nous, concevoir ces espaces-là avec des innovations technologiques, donc des fouissements, sur des liquides ou des sous-sols. C'est voilà, favoriser l'innovation technologique, respecter aussi la RGPD, donc avoir un stockage raisonné de ces données. Le premier, c'est de limiter sur son impact environnemental. Donc, limiter son impact environnemental, c'est sur les quatre principales sources d'impact gaz à effet de serre, matières premières ou énergie. Donc, ça veut dire mesurer, en fait, aussi, mesurer de l'impact pour voir là où on doit aller, là où on a l'impact. Et donc, nous, ensuite, on peut orienter une RME avec le plus d'impact. Enfin, c'est l'impact social, donc veiller à ce que les usages des numériques de ces salariés soient les plus inclusifs. C'est donc aussi respecter le droit à la déconnexion. C'est faire aussi du numérique un moment d'écrire plus ou ne pas exclure certaines personnes en libérisant des métiers, en précarisant peut-être la population. Donc, concernant, c'est être plus sobre, avoir une gouvernance, donc se rendre compte de ce que c'est l'impact du monde dans son entreprise, à inclure et informer, former ses salariés sur ce. J'aime bien, j'ai pris cette infographie de Chief Project sur le numérique en entreprise et le numérique en entreprise, mais c'est pour origine. Je trouvais que c'était une drôle d'image parce que. En fait, c'est ça, pour muscler son impact, il faut avoir cette vision aussi holistique, vraiment large de ce que c'est le numérique et de l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à se coacher, il faut pas hésiter à aller à un regard externe et à solliciter d'autres parties prenantes, comme ça a été le cas avec Oshlo. Donc, je vais parler aussi, on parlera plus tard, mais ce qu'on a, c'est la partie de structure. Et on peut aussi vous proposer des solutions. C'est adapté à son style de vie. Donc, c'est développer une culture numérique durable. Donc, promouvoir ces bonnes pratiques. C'est aussi, donc, comme je disais, mesurer, c'est donc se poser et voir si notre réseau fonctionne. Il faut aussi mettre un peu tout le monde dans ces instances de gouvernance. Ça peut se concrétiser à travers le comité de pilotage durable. Ou inscrire dans le comité RSE. En tout cas, concrètement, ça peut aussi mobiliser la partie prochaine. Si tu veux dire un mot, tu veux une chaîne sur ce que tu veux?
Oui, on enchaînera après sur l'acheter.
Ok. Donc, je te laisse acheter mes scores, donc je te laisse présenter votre stratégie RSE.
Merci, Maurice. Alors, j'ai rapidement présenté le groupe Bechtle tout à l'heure. Bien entendu, un groupe comme le nôtre se doit d'avoir une politique, une stratégie RSE. Donc là, vous voyez les quatre piliers de la RSE du groupe. Donc, ça englobe à la fois l'éthique, également l'environnement, évidemment, les personnes et, bien entendu, le numérique durable, puisque nous sommes un acteur majeur du numérique en Europe. Et la stratégie que nous avons voulu mettre en place chez Bechtle France, concernant le numérique responsable, vous allez voir, englobe l'ensemble de ces piliers-là. Donc, au niveau Bechtle France, le numérique responsable, en fait, donc là, j'ai fait un tableau où on voit les actions internes à Bechtle France et les actions externes, donc c'est-à-dire notamment vers nos clients, sur l'environnement et sur la société. Donc, les actions internes, on va dire que c'est du classique, hein. On va réduire la consommation de notre énergie liée au numérique, puisque nous sommes une activité tertiaire hein, chez nous, notamment à Ilkirch, avec à peu près 150 postes sur site. Et donc, mine de rien, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. On a également, bien entendu, des achats responsables, puisqu'on ne peut pas non plus proposer à nos clients des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. Donc, vous allez voir que nos achats, ben, c'est que du matériel labellisé. Et bien entendu, ben, nos D3E, nous les gérons de manière à ce que l'impact soit réduit au minimum. Et pour tout ce qui est société, en tant qu'acteur majeur du numérique en Europe, nous travaillons avec beaucoup de partenaires, des constructeurs, hein, des grands noms de l'informatique que je ne vais pas citer ici pour ne pas faire de publicité gratuite, mais tout ceci ont eux-mêmes intégré dans leur supply chain un code de conduite hein, qui permet de s'assurer que les sous-traitants, des sous-traitants respectent bien entendu les droits humains et intègrent dans leur chaîne de production bah, des mesures de réduction des consommations d'énergie et de matériaux. On parlait tout à l'heure des matériaux. Il faut savoir que dans un smartphone, dans un ordinateur, il y a pratiquement tous les éléments du tableau de Mendeleïev, certains étant plus rares que d'autres. Donc, bien évidemment, la fabrication d'un PC utilise toujours beaucoup de matériaux. Nous allons y revenir un peu plus tard, mais les efforts des industriels sont importants sur ce niveau-là, en intégrant de plus en plus de matériaux recyclés notamment. Et nous avons demandé à nos partenaires industriels, fournisseurs, d'être également intégrés dans la notation EcoVadis. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas EcoVadis, c'est un organisme d'origine française, hein, c'est ce qu'on appelle une licorne française, qui va certifier les entreprises sur la partie, enfin, leur engagement RSE. Alors, ce n'est pas seulement l'environnement, mais c'est vraiment toutes les sphères de la RSE, hein, également l'éthique, la gouvernance, les conditions de travail. Nous-mêmes, donc Bechtle, nous sommes médaillés niveau silver, EcoVadis, donc ça veut dire qu'il y a encore de la progression, mais nos partenaires sont également de plus en plus EcoVadis. Et sinon, sur le. Alors, peut-être qu'à l'écran, il y a un petit. Je me tourne vers la régie. Il y a un affichage parasite sur l'écran. Merci. Et sur les actions externes, donc envers nos clients notamment, donc nous-mêmes, comme nous-mêmes, nous achetons du matériel labellisé, donc nous faisons la promotion auprès de nos clients du matériel labellisé et bien entendu reconditionné, puisque Bechtle est un acteur majeur du reconditionné. Ça fait plus de 20 ans que Bechtle fait du reconditionné via sa filiale remarketing. Et pour tous les aspects sociétaux, donc nous avons noué un partenariat qui ne demande qu'à se grandir depuis début de l'année dernière, donc avec Emmaüs Connect. Donc un petit focus sur les actions internes. Donc comme je vous l'ai dit, donc achat de matériel labellisé, donc TCO Certified, donc il y a un organisme de certification tout à fait indépendant des constructeurs. Donc ça c'est important à savoir. Nous avons fait avec un stagiaire l'an dernier un petit calcul de consommation. Nous étions arrivés à 2 000 kWh par mois de consommation de veille, sur 150 postes. Pour donner une comparaison, c'est la consommation annuelle d'un Français pendant 6 mois. Donc, nous avons investi dans des horloges qui coupent toutes les consommations de veille la nuit, donc entre 20 h et 7 h du matin. Donc, ça se voit tout de suite sur les consommations d'énergie. C'est ce qui nous a aussi permis d'économiser 32% d'énergie cet hiver. Donc, la sobriété énergétique va avec le numérique également.
Et économique.
Et économique, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, le ROI était pas mal sur cet investissement-là. Après, pour la gestion des données, on évite les pièces jointes volumineuses, bien entendu. Hein, donc, c'est un espace partagé où on met les documents et on envoie des liens, ce qui permet d'éviter que les boîtes mail deviennent des gestions électroniques de documents parallèles. Et nous faisons aussi, ben, nous accueillons volontiers les D3E de nos collaborateurs. Ça leur évite d'aller à la déchetterie pour le smartphone ou le petit appareil électronique qui n'ira pas à la poubelle ni à la déchetterie, mais chez nous, ça ne leur fait pas de détour comme ça. Et pour les actions externes, en fait, donc envers nos clients, donc j'en ai un peu parlé avant, soit les clients veulent des produits neufs, parce que pour X raisons, on peut vouloir préférer le produit neuf. Donc là, on les guide vers du labellisé. Donc, on leur explique pourquoi c'est labellisé, notamment TCO Certified vous permet de voir quelle est la part de matériaux recyclés dans
dans le produit permet de voir également quelle est la consommation d'énergie. Et donc, ce sont des données qui sont librement accessibles à tout le monde, mais nous, nous savons mieux guider nos clients vis-à-vis de ça. Et il existe également le label IPIT, qui est aussi reconnu par le guide du numérique responsable édité par l'ADEME. Et bien entendu, donc, le reconditionné. Le reconditionné est en train de monter en puissance chez Bechtle. L'année dernière, nous avions vendu plus de 300 matériels reconditionnés, donc ce qui équivalait à peu près 9 tonnes de CO2 économisées. Donc, on va dire 9000 kilos, ça fait toujours plus, mais 9 tonnes, voilà.
Ouais, c'est énorme.
Et nous allons de plus en plus vers des solutions qu'on appelle DAS, donc Device as a Service, qui permettent de… Alors, c'est un système de location, pour faire simple, qui permet de mieux maintenir le matériel et donc, du coup, d'accroître sa durée de vie. Et enfin, on parle de durée de vie, je préfère parler de durée d'utilisation. Quand l'entreprise en question, le PC, parce qu'en général, c'est du PC, n'est plus assez performant, on sait que comme il a passé tout notre cycle de maintenance, on sait que dans quel état il est et il peut beaucoup plus facilement avoir une seconde vie, soit dans une autre entreprise, soit dans une association ou autre. Donc ça, c'est les actions qu'on fait envers nos clients. Et comme on parlait du partenariat avec Emmaüs Connect, alors ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille, un partenariat, ça prend du temps. Tout avait commencé fin 2021, donc nous avions fait une revue de direction, nous avions regardé notre stratégie RSE pour les années à venir. Et notre devise, donc elle est en anglais, hein, puisque nous sommes un groupe international, c'est Care for People, Passion for IT, donc prendre soin des gens et la passion de l'IT. Et on s'est dit, y a une association qui colle bien avec ça, c'est Emmaüs Connect, puisque Emmaüs Connect, c'est la passion de l'informatique quelque part, et on prend soin des gens. Et c'est comme ça qu'on a noué le premier contact réel, on va dire, et non virtuel, en allant dans les locaux de Emmaüs Connect à Strasbourg, donc rue Kaguenec, hein, on a été très bien accueillis par, tu n'étais pas encore à l'époque, c'est peut-être pour ça, par Arthur qui est ici présent dans la salle. Donc nous avons été très bien accueillis, on continue à l'être, je précise. Et c'est là que nous avons vu qu'il y avait plusieurs moyens d'aider Emmaüs Connect. Alors, il y avait le moyen financier, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément assez engageant pour nous. Donc il y avait du mécénat de compétences. Alors, pour nous, c'était un peu compliqué parce que nous sommes toujours à la recherche de talents, donc on a du mal à se défaire sur le long terme de personnes pour aider, mais il y avait aussi faire la promotion du dispositif, la collecte Pointec.
Exactement. Ouais.
Voilà. Et par contre, cette idée de mécénat de compétences, ça a fait un chemin chez nous, c'est-à-dire que vous nous aviez dit à l'époque que vos missions de bénévolat étaient disponibles sur des plateformes de mise en relation entre associations et entreprises, et ce qui nous a permis de benchmarker plusieurs plateformes, et nous avons fait notre choix sur la plateforme Vendredi. Donc, c'est quelque part grâce à Emmaüs Connect que nous avons mis en place cette plateforme chez nous. En gros, on permet aux salariés de faire du bénévolat dans une association de leur choix. Donc, je sais qu'il y a une de nos collègues qui a fait déjà plusieurs missions chez vous. Le petit nudge, comme on dit dans le jargon, c'est que nous offrons une demi-journée par mois pour faire du bénévolat. Donc, forcément, ça permet d'encourager la démarche. Et nous avons également fait un relais de l'appel aux dons que vous aviez lancé l'an dernier. Donc, malheureusement, pour des questions d'organisation, ça a été fait début d'année. Par contre, voilà, il a été fait auprès de notre base de clients, puisque, comme je le disais avant, nous nous adressons à des clients professionnels, que ce soit association, que ce soit entreprise, que ce soit administration, de toute taille. Et comme je l'ai dit, maintenant, c'est à suivre, hein, puisque ce n'est appelé qu'à se développer. Et enfin, à ce jour, donc grâce au partenariat que nous avons avec Emmaüs Connect, nous sommes associés à Vendredi. À ce jour, donc depuis novembre 2022, nous avons pu réaliser 47 missions de bénévolat parmi les salariés Bechtle, hein, ce qui représente à peu près 130 heures de bénévolat. Et puis, avec la collecte Pointec, nous avons eu la chance d'accueillir Arthur dans nos murs pour représenter la collecte Pointec à l'ensemble de nos collègues. Et donc, nous avons fait cet appel aux dons début d'année. Et nous avons ainsi pu toucher 350 entreprises, donc 1600 personnes parmi nos contacts. Voilà. Et j'espère que ça continuera comme ça.
Génial, merci. Merci pour votre contribution. Ouais, c'est vrai que ça peut être, voilà, c'est une action concrète parce que, oui, la dernière fois, j'aimais bien ce que tu disais. Je sais plus exactement comment tu avais tourné, mais tu disais que les Mesh Connect, c'était le pendant associatif quoi, de Bachelet. Je ne sais plus exactement comment c'était tourné, mais j'ai trouvé ça en fait intéressant comme démarche de se dire, bon, ben, dans mon domaine, je travaille pour des entreprises, mais en complément, je peux proposer ou rendre facilité. Ce service pour des personnes qui ne seront pas forcément concernées. Donc, ce n'est pas de la concurrence. On ne travaille pas du tout avec le même public. Mais par contre, ça a du sens pour vous de se dire, on veut rendre ça accessible, cette passion de l'IT à un max de monde possible, quoi, tout simplement. Donc, je voudrais revenir rapidement en conclusion un peu de ce temps sur nous. Ben, qu'est-ce qu'on peut proposer? Comment on peut mobiliser les entreprises pour agir sur. La responsabilité numérique des entreprises. Donc, concrètement, pour planter un petit bilan de ce qu'on a fait via la collecte Plantech, donc la filière solidaire de reconditionnement d'appareils numériques, dans le Grand Est, on a déjà aujourd'hui, on est au démarrage de cette filière, l'idée c'est vraiment de monter en puissance, on a déjà équipé 700 foyers, donc 700 appareils distribués qui ont permis d'équiper. Avec un appareil qui marche, qui est fonctionnel, qui correspond aux besoins de la personne qu'on a équipée. Donc, c'est dans tout Grand Est. On va chercher dans les territoires les plus ruraux, les plus éloignés aussi de là où on est. Pour équiper ces 700 personnes, on a dû aller chercher plus de matos. Aujourd'hui, c'est après 1 millier, un peu plus d'appareils. Mais concrètement, c'est aussi c'est de l'emploi, c'est des CDDI, donc des contrats d'insertion. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a environ 4 CDD, surtout au Grand Est, qui ont eu à travailler sur ces appareils qui ont permis donc d'équiper ces personnes. Et concrètement, ben, en fait, derrière ces centaines d'appareils, les impacts environnementaux ils sont énormes. On considère qu'il y a 168 tonnes de CO2 évitées. Si on avait dû fabriquer ces appareils, c'est plus de 700 tonnes de matière économisée. Donc, qui reste dans le sol et là où elle est, où elle a sa place. Donc, on a vite un impact très fort en agissant sur le numérique. Donc, c'est aussi quelque chose auquel nous voulons sensibiliser ben, les entreprises en leur disant que c'est un moyen d'agir rapidement sur votre RSE, la RNE au final. Via la collecte Plantech, via la plateforme la collecte Plantech qui est donc. Un site sur lequel on invite les entreprises, les collectivités, les services publics, les écoles, tout le monde professionnel à en fait venir déposer leurs appareils qu'ils n'utilisent plus, qu'ils mettent au revu. Et donc, ils déclarent leur nom, on les appelle, ben parce qu'il faut se présenter aussi. Et donc, on se présente, on leur demande quel type d'appareil ils ont, on qualifie le don. Ensuite, on vient le collecter. Donc là, c'est les chantiers d'insertion qui prennent le relais. On travaille avec eux, on s'organise avec eux pour venir faciliter cette collecte d'appareils. On reconditionne tout ça, on distribue via nos partenaires d'action sociale dans tout Grand Est ou à travers les espaces de solidarité numérique. On partage le bilan d'impact. Donc, combien de personnes on a équipées, quel type de public, qui a travaillé sur le reconditionnement de ces appareils, quel est l'impact en empreinte eau, en empreinte carbone qui a pu être évité. Et tout ça, ben, ça permet de mobiliser. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment agir en consortium, mais en tout cas, vraiment créer du collectif, comme c'est le cas avec vous, Bachelet, en fait. Vous avez aussi été ben, le relais à plusieurs centaines, 400 environ, à 300.
Oui, 350 de mémoire. Hein.
350 entreprises dans le Grand Est. Donc, voilà, c'est vraiment cette logique d'avancer ensemble, collective, qu'on veut mettre en place avec les entreprises dans la filière du Grand Est. Donc, merci beaucoup, Nicolas.
Merci,
Voilà,
Maurice.
c'en est tout pour nous, pour ce qu'on avait à présenter. Maintenant, désolé, mais on est ouvert aux questions. S'il y a peut-être déjà des questions dans la salle ou on ouvre aussi aux personnes qui assistent en visioconférence, on serait ravis d'avoir vos retours. Je ne sais pas si vous pouvez intervenir ou si vous voulez envoyer via le chat des questions pour les lire et y répondre. Voilà. Je vous laisse un petit instant.
Donc, j'avais une petite question. Bechtle est donc un groupe international. Est-ce que cette ambition de collecter et de réutiliser les matériaux, donc ce que vous faites déjà sur le site d'Ilkirch et peut-être en France d'ailleurs, est-ce qu'il y a une ambition mondiale ou quelque chose qui est mis en place dans de l'ordre mondial sur le groupe?
Alors, le groupe Bechtle a donc une dimension pour l'instant européenne. Donc, nous avons des partenaires dans le monde entier par le biais d'une alliance. Là, on va se concentrer sur l'Europe. Alors, nous avons une stratégie globale groupe et chaque entité a une autonomie. Donc, nous-mêmes avons eu cette décision de nous allier à Emmaüs Connect. Mais en fait, tous les mois, nous avons ce qu'on appelle une table ronde avec les différents responsables RSE de l'Europe et nous échangeons nos bonnes pratiques. Donc, comment dire, cette démarche a été présentée notamment à différents acteurs du groupe en Europe. Et donc, forcément, il y a des idées qui se partagent comme ça. Et il y a des projets qui vont se faire dans les mois à venir. Donc, pour ce projet-là, la France est pilote.
Merci. Okay.
Est-ce que toi tu vois toi c'est quoi ton tu vois de l'intérêt à l'évaluation d'impact pour les entreprises ou est-ce que je vous partage un peu à vos clients?
Alors, nous-mêmes, nous pouvons nous positionner sur la partie surtout matérielle. C'est là où nous avons une légitimité. Mais c'est vrai que nous-mêmes, Bechtle, même si nous faisons des actions, il nous faudrait aussi un coach qui puisse nous aider
Bien
à faire
sûr.
cette cure d'amaigrissement,
Ouais.
puisque la difficulté de la RNE, quelque part, et je pense que beaucoup d'entreprises vivent ça également, c'est que c'est très virtuel. Hein. On a tous des terminaux, tout ça, mais finalement, tout ça, c'est caché dans des serveurs, on ne voit pas forcément, alors qu'on a mis l'accent pendant des années, et puis il faut continuer à le faire sur des choses beaucoup plus visibles,
Complètement.
l'énergie ou des pollutions peut-être plus visibles que ça. Et je pense que coach en sobriété numérique serait un métier porteur dans les années à venir. Voilà.
Pourquoi pas envisager des reconversions, ouais. On a une question de Karine. Karine, lire, j'aurais aimé en savoir davantage sur les actions pour favoriser l'inclusion interne des salariés, l'inclusion numérique interne. Est-ce que, alors, je me permets peut-être de dire un petit avis sur ce qu'on avait fait ensemble, mais typiquement, dans Collect.Tech, quand on est venu sensibiliser en fait les commerciaux d'Achelet sensibiliser les clients aux bonnes entreprises, ben, concrètement, c'est aussi un petit temps d'animation, c'est faire varier, diversifier les tâches et donc apporter un peu de renouveau, de faire dans la mission. Ça peut être. Un peu pour certaines personnes aussi redonner du sens. Donc, agir sur la RSE, la RNE, je te laisse la parole, c'est aussi un moyen de renforcer un peu, ça peut être un moyen de renforcer bien au travail et de proposer une autre manière de travailler.
Oui, alors je pense qu'il y a également dans la question qui nous est posée quelque chose qui est peut-être, alors peut-être que la personne me corrigera par chat, mais dans certaines entreprises où il y a des gens qui ont peut-être plus de mal avec le numérique, comment est-ce qu'on fait pour les amener vers le numérique et faire en sorte qu'elles soient moins craintives du numérique? Alors c'est vrai que malheureusement, je n'aurais pas de réponse là à apporter puisque nous-mêmes, par notre activité, nous avons dans nos profils, des gens qui sont déjà à l'aise avec le numérique. Par contre, je sais que dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais donc dans l'informatique, dans l'industrie, excusez-moi, c'est un lapsus, j'étais dans l'industrie où il y avait des publics à qui on mettait entre les mains des nouveaux outils numériques. Et c'est vrai qu'il fallait un temps, il fallait introduire un temps de formation conséquent pour ne pas que les personnes se sentent vraiment exclues. Donc, c'est vraiment une volonté des directions d'accompagner le changement pour ces personnes-là à qui on demande pour la première fois d'utiliser des outils numériques, alors qu'elles étaient très bien jusqu'alors, jusqu'avec des outils analogiques, elles étaient très compétentes. Et d'un coup, il y a une sorte de remise en question de leurs compétences parce qu'on leur met un nouvel outil entre les mains. Donc, il faut, comme tout changement, un accompagnement très fort et une volonté vraiment de la direction d'accompagner ce changement-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne.
Il y a aussi un enjeu d'inclusion générationnelle aussi, quoi. Je pense que c'était plutôt des seniors
Oui, alors dans ce cas-là, c'était des seniors ou alors des gens qui, même 40, 30, 40 ans, qui avaient toujours travaillé donc, en atelier, donc très compétents dans la mécano-soudure, par exemple, mais à qui voilà, on mettait des nouveaux outils entre les mains.
Ok, effectivement, c'est mettre tout le monde dans le bateau, quoi. Faut vraiment veiller à ça avec le numérique et quand on va faire moins de réunions, on va plus avoir forcément ces temps d'échange et qu'on va se retrouver à partir de 2020 à faire énormément de visio. Ben, il y a eu beaucoup de personnes mis au ban, et donc ça c'est vraiment des pratiques managériales, je pense, super importantes effectivement.
Et la crise du Covid a libéré l'usage du télétravail. Donc, on s'est beaucoup mis au télétravail sous la contrainte quelque part. Hein. On voit de plus en plus une remise en cause du télétravail. Donc, en soi, le télétravail, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Comme tout, il faut savoir travailler avec. Il y a des gens qui préfèrent le télétravail, d'autres qui ne le préfèrent pas. Moi-même, j'aime bien aller souvent au travail. Bon, ça me va, j'ai moins de 10 km à faire. Le vélo, c'est sympa. Le tram, c'est très bien aussi. Au boulot à vélo, exactement. D'autres ont 30 ou 40 km, voire plus à faire. Ça peut être une contrainte pour ces personnes-là. Et il y a des gens qui sont très autonomes en télétravail, d'autres moins. Donc, pour moi, le télétravail devrait être géré au cas par cas, ce qui est parfois compliqué dans les entreprises, bien entendu, dans un souci d'égalité.
Ouais, c'est de l'agilité aussi, quoi. En fait, piloter, orienter sa stratégie numérique, c'est aussi... Rendre ça agile et ce qui est l'avantage du numérique aussi, c'est que on a des espaces de collaboration qui proposent cette agilité. Donc, ça nous permet justement d'adapter peut-être à avoir. C'est peut-être un défi, hein, ce management multifacette qui s'adapte vraiment aux collaborateurs, mais c'est aussi, ça peut être une opportunité. Et en tout cas, c'est vrai que chez MS Connect, on a plus la vision des personnes qui sont en précarité sociale, mais l'impact du Covid, il a été très clair. On a vu rapidement les personnes venir vers nous pour nous dire une boule d'équipement. Et donc là, les entreprises ont quand même répondu présent à ce moment-là, donc sur un enjeu d'inclusion plus externe. Mais elles ont vite joué le jeu pour fournir de l'équipement aux mères célibataires, aux seniors, aux étudiants précaires. Et à permettre donc une poursuite du travail ou des études. Je prends quelques chiffres, mais on avait mis en place l'opération connexion d'urgence à partir de 2020, à partir du Covid. Et en deux ans, on a récupéré plusieurs dizaines de milliers d'appareils dans toute la France, autour de 40 000 appareils. Donc ça a été vraiment le lancement en fait, de la Covid.tech. Et donc ce nouvel équipement, c'est pour ça aussi que nous travaillons avec les entreprises, c'est parce que c'est là aussi des moyens d'équiper un maximum de personnes, mais il y a vraiment aussi cette mission d'inclusion externe, donc sur laquelle est-ce que je me permets du coup de revoir avec l'audience aux yeux s'il y avait peut-être d'autres questions parmi les participants. Monsieur.
Non, pas à distance, mais là on entendra. Ça faisait un peu écho à une des conférences de ce matin qui parlait de labellisation de numérique responsable. Et donc Nicolas, tu parlais du label IPIT et de votre label Silver pour Bechelet. Je n'ai pas de compétences, de connaissances sur ce type de label-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je pense que dans les rencontres de différentes entreprises, il y a toujours un moment où on se dit « Ah bah tiens, ils parlent de ce label-là, à quoi ça correspond ?» TCO, tu nous en as parlé un petit peu, est-ce que tu peux nous parler du deuxième ?
Oui, alors il y a deux grands labels pour le numérique, pour le matériel numérique. Hein, donc il y a TCO Certified, donc, qui est une émanation d'un syndicat suédois, TCO, Je ne vais pas vous le dire en suédois parce que ça va être compliqué. Voilà. Et donc, c'est totalement indépendant des constructeurs. Donc, ça, c'est très important. IPIT est un label, donc celui-là, à trois grades, donc bronze, silver et gold, qui lui-même est issu des constructeurs eux-mêmes. Alors, on va espérer que les constructeurs eux-mêmes ne vont pas fausser les résultats parce que celui qui s'amuserait à fausser ses résultats serait vite rappelé à l'ordre par ses confrères et concurrents. Il n'empêche que ce sont deux labels qui apparaissent, qui sont mentionnés dans le guide du numérique responsable. Et donc, c'est sur cela qu'on peut guider nos clients. Et quand j'ai dit que Bechelet était silver, c'est sur la notation EcoVadis. Donc, EcoVadis étant un organisme de certification RSE, également externe, qui lui va certifier les entreprises, non plus les produits, mais les entreprises. Donc là, il y a également quatre niveaux, donc bronze, silver, gold et platinum. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Oui, tu as même mieux expliqué ce que j'avais compris. Super. Donc en fait, il vous reste encore deux crans à aller chercher.
Il nous reste effectivement deux crans.
Bon courage.
Merci. Alors, pour rebondir peut-être sur ce que tu disais, Louni, sur finalement le numérique, la responsabilité numérique, je pense que dans nos entreprises, il y a quelque chose de très important. Le numérique, c'est bien. Le numérique, c'est devenu indispensable. Par contre, il ne faut surtout pas oublier la place de l'humain, puisqu'on aura beau avoir tous les outils qu'on veut pour communiquer, rien ne remplace finalement la communication à la machine à café. On a fait une série télé il y a des années, mais finalement, c'est aussi là que s'échangent les informations. Et puis, tout ne peut pas tourner autour du travail. Prendre des nouvelles des collègues sur le petit dernier ou sur les joies et les peines de chacun, ça fait aussi partie du plaisir d'aller au travail. Donc, il ne faut pas opposer l'humain et le numérique. Il faut savoir tout bien doser. Et c'est ça, souvent le plus dur, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle. Il faut savoir s'adapter aux différentes personnes.
Complètement. Je pense que c'est un super mot de la fin. Merci Nicolas.
Merci Yonis pour l'invitation.
D'avoir répondu présent. Merci à l'EMS pour l'invitation. Merci au Shadok pour l'accueil. Merci aux participants. Ce sera rediffusé, ce sera accessible sur le site du SENR, de la Semaine européenne du numérique responsable. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Sur le site de Bechelet, sur le site lacollect.tech et le site de Demos Connect. Vous n'hésitez pas tout simplement à nous appeler pour en savoir plus sur ce qu'on fait. Et très bon après-midi, bon week-end et bonne fin de semaine européenne du numérique responsable. Merci Nicolas.
Merci à tous.